MM Radio. MM Radio. Bonjour à tous, je suis Angela Putti, ravie de vous accueillir en cette période que je ne définirai pas difficile, mais différente pour nos habitudes. Quoi qu'il en soit, nous espérons que vous vous portez à merveille, que vous profitez de vous-même et de votre entourage durant cette occasion, car il y a assurément du bon dans toute situation. Nous sommes contents d'apporter toutefois de l'information différente, des conseils, des nouvelles internationales et variées pour ce lunch show au format spécial. En effet, la conversation avec notre plateau se fera à distance et confinée comme conseillé par notre gouvernement grâce aux moyens techniques évolués, mais avec quelques petits défauts parfois. Nous avons toutefois gardé nos segments essentiels. Alors merci d'être compréhensif quant à notre situation audio. Dans cet épisode spécial confinement, donc toutefois divertissant, un point sur le programme Selfie for Kids pour aider les parents à protéger leurs enfants sur Internet, un récap sur la gratuité des chaînes durant le confinement et quelques infos séries à venir, une plus grosse sélection bout de lecture pour que vous ne manquiez pas de choix à lire, même si vous ne pouvez pas sortir pour acheter ces livres que nous vous conseillons. Vous pouvez cependant vous les procurer sur liseuse ou au format digital. Et puis j'ai vu quelques livreurs passer par-ci par-là dans les rues certains arrondissements. Alors, pour cette discussion à distance avec moi, Didier J.P. Mano pour un sujet intitulé « L'industrie musicale face au Covid-19 » et puis interviewé en différé, Loïc Termicien, naturopathe et auteur du livre « Naturopathie, le guide saison par saison ». Comment vas-tu Didier J.P. Mano, confiné au fin fond de ton doux canapé?
Bonjour Angela. Eh bien écoute, je suis bien confiné et tout va bien, voilà.
C'est clair, t'as tout à disposition, ça va, t'es à l'aise?
Écoute, je suis un peu comme chaque Français qui s'est tourné vers les choses efficaces.
Ouais.
J'ai des pâtes et du riz, peut-être pas assez pour faire un siège, mais en tout cas suffisamment pour ne pas me soucier pour le moment de ce que je vais manger.
Ouais, c'est ça. Et puis de toute façon, tu écouteras l'interview de Loïc Termicien qui déconseille justement les pâtes et le riz, donc pendant cette période justement. Trop de pâtes et de riz, ce n'est pas bon.
Ah, c'est sûr que les surprenants ne sont pas vraiment à la mode, mais bon. Malheureusement, on réagit de façon un peu impulsive.
C'est ça.
Sur les denrées qui paient impérissablement.
Alors, quelle est ta bonne nouvelle? C'est peut-être une drôle de question à poser en ce moment, mais est-ce que tu en as une de bonne nouvelle, JP?
Non, la bonne nouvelle, c'est toujours dans des moments un peu compliqués comme ça. Qu'on peut prendre la mesure de la qualité des liens qu'on tisse avec les gens au fil des années.
C'est vrai.
On n'a jamais connu une période pareille. Mmh. Et de voir la bienveillance des gens, de la ressentir, d'avoir des coups de fil, d'avoir des échanges, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça donne beaucoup de sens à ce que je fais depuis 40 ans maintenant. Donc oui, non, il y a plein de bonnes nouvelles, au contraire.
C'est clair, on voit le bon côté de la situation. Hein. Pour ma part, je trouve que c'est un bon moyen pour rappeler que, comme tu l'as dit, on peut s'encourager. Et puis même à la réflexion aussi, prendre ce temps pour en profiter, c'est pas une calamité non plus. Et puis inciter au repos pour certains, comme le fait le gouvernement assez souvent. J'ai adoré s'appelle le président Macron qui disait « lisez ».
Lisez, reposez-vous.
C'est ça. Et puis à l'espérance aussi, parce que même c'est vrai que voilà, on n'a pas de vision sur le futur, mais on a cet esprit imaginatif qui nous pousse à l'espérance, au rapprochement par des moyens modernes, comme tu l'as dit aussi. Je pense aussi beaucoup à la création, à voir au-delà la limite que nous croyons vivre, au divertissement différent, hors des écrans, s'il vous plaît. Mais s'activer sagement et trouver des alternatives que les habitudes ne nous auraient pas permises, que ce soit dans notre vie personnelle, que pour nos projets que l'on a au fin fond du placard, ainsi que notre vie professionnelle, prendre de nouvelles résolutions, des décisions qu'on n'aurait jamais prises avant. Donc voilà, je pense que c'est un bon moment pour faire tout ça, de faire du nettoyage intérieur comme extérieur aussi. Tiens, pourquoi pas pour ceux qui ont des maisons désordonnées, profiter. Hein.
Ceci étant, si tu m'y autorises, je dirais qu'il vaut mieux que le confinement dure, parce que c'est pas comme s'il n'y avait pas du boulot.
C'est clair.
Il y a quand même du boulot, et donc il y a quand même pas mal de choses à faire, donc oui.
Ouais.
C'est une bonne chose, c'est une bonne chose en tout cas.
Exactement, il y a du bon dans toute situation. Mais c'est vrai que je conseillerais quand même à certains, parce que j'ai entendu des gens qui me disent qu'ils ont rallongé leurs horaires, et ils finissent tard. Donc, c'est pas une raison que vous soyez à la maison pour travailler beaucoup plus de façon professionnelle. Profitez, détendez-vous. Votre employeur ne vous demandera pas des comptes, à moins qu'il soit super toxique. Oh mon
Mais
Dieu!
tu sais, je crois que quand on est chez soi, on a aussi. Enfin, moi, je connais ça puisque je suis indépendant. Donc, quand on travaille de chez soi, bah, on se laisse facilement
C'est
distraire.
vrai.
Et donc, je pense que le fait de se dire qu'au lieu de travailler 4 heures, on va travailler 5, ça
Ouais.
permet quand même de tout faire. Parce que, enfin, moi, j'ai des amis qui ont des enfants à la maison. Il faut qu'ils s'en occupent et donc ils ne peuvent pas.
Ouais.
Pas respecter les horaires stricto
C'est
sensu
ça.
de tout le monde.
Exactement, c'est vrai. Pour cette bonne nouvelle, voilà ce que vous avez aujourd'hui dans le lunch show. Des bonnes nouvelles, on va dire, philosophiques. On va continuer avec les actus. Internet, hein, fait tant partie de nos habitudes, encore plus en ce moment, que nous oublions la limite que nous devons nous imposer avec les autres, qui sont pour beaucoup des inconnus, hein. Je parle sur les réseaux sociaux, il faut se protéger, surtout quand il s'agit de nos enfants, qui nous imitent et à qui nous n'enseignons pas suffisamment, en ce qui concerne les lois comportementales sur le digital. Est-ce que tu laisses tes enfants faire ce qu'ils veulent, toi, librement, sur Internet, JP? Tu les laisses partager des selfies, notamment?
Alors ils sont plus en âge que j'exerce un quelconque contrôle. Ce sont des adultes maintenant. Ils ont largement passé les 25 ans. Et donc du coup, mais c'est vrai que étant jeune, tant que je les ai eus sous ma responsabilité, ils n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils voulaient, quoi.
Ouais, bien sûr, hein, parce qu'on voit de plus en plus des enfants avec des smartphones au collège, au primaire, des choses comme ça.
Oui, ça, ils n'ont jamais eu. Ils n'ont jamais
Ouais.
eu de téléphone étant jeune. Jamais.
Tout à fait. Est-ce que tu as entendu parler de Selfies for Kids?
Non.
Pas du tout. Alors c'est peu, hein, mais puis c'est récent. C'est un programme qui devrait intéresser les parents qui utilisent un peu trop la tablette et le smartphone pour divertir et se débarrasser de leurs enfants, particulièrement 24 heures sur 24 avec eux en ce moment, hein. Mise en place par ESET, c'est une société slovaque qui offre des solutions de sécurité antivirus. Selfies for Kids est un guide qui permettra aux parents de réaliser les dangers auxquels ils exposent leurs enfants, notamment le fait de prendre une photo personnelle de la rendre publique et donc conduit à une possible cyber-intimidation et cela même des années à venir. Également l'affichage de la géolocalisation et donc le kidnapping, etc. C'est pas pour vous effrayer, mais ce sont des choses et des situations possibles. Toutes ces informations et les moyens de protéger les enfants par l'application d'habitude et des enseignements sont disponibles sur le site saferkidsonline.e7.com. On vous mettra le lien dans l'éditorial de l'émission. C'est en anglais, mais vous pouvez utiliser Google Trad. Qu'est-ce que tu penses de ce programme?
Eh bien, écoute, je pense que c'est une très bonne chose,
Hein.
même si on est dans une période particulière où on rappelle aux gens qu'ils se doivent d'être responsables.
Mais ouais.
Et je pense que en responsabilité, eu égard à ce que nous, en tant qu'adultes, on peut voir sur Internet, il est
Ouais.
quand même de notre devoir de faire en sorte que les enfants ils soient pas confrontés.
C'est
Et
ça.
donc, du coup, j'ai plutôt tendance à dire que c'est plutôt nous, les parents,
Ouais, hein.
qui devons systématiquement regarder, parce
Tout
que
à fait.
il y a plein de sites pour enfants qui sont hébergés par des sites pour adultes.
Tout à
Et
fait.
du coup, faut être extrêmement prudent. Moi, ça là-dessus, j'ai plutôt tendance à dire que c'est plus du recours de nos parents,
Oui.
exactement comme quand on laisse ses enfants aller dans le parc à côté de la
Tout
maison pour
à
jouer.
fait.
La plupart du temps, on les accompagne et
Ouais.
on regarde ce qu'ils font et on
Ouais.
se dit, ah bon, bah voilà, ils sont là et on les laisse
Hop.
faire.
Passons au divertissement durant cette période de confinement qui fut sympa au début et qui commence à torturer certains. Je crois que tu n'as pas de télé, hein, JP, n'est-ce pas?
J'ai une télé
Ah, finalement!
et donc je la découvre.
Ah oui, c'est ça, parce que tu n'avais pas de télé avant, c'est ça, hein?
Je la découvre et c'est un peu. Je me dis non, mais quand même, les gens sont confinés, quoi. Faites
Ouais.
des programmes.
Ouais.
assez effrayant, quoi.
Ouais, alors peut-être que ça va t'aider, les chaînes de divertissement seront généreuses. Mais attention à l'abonnement instantané, après que vous vous serez habitué à leur programme, voici quelques-unes qui proposent de la gratuité, par solidarité entre guillemets, sur les box uniquement et non les offres tablettes smartphones malheureusement. Alors, annoncé sur Twitter, dès l'information de confinement, Canal+ prévoit de rendre ces quatre chaînes accessibles depuis le 17 mars et ce pour un mois également, l'accès à My Canal pour le replay. Et puis Orange aussi, depuis le 17 mars, un catalogue de chaînes, dont ces chaînes cinéma et séries, OCS, là jusqu'au 31 mars. Ce sont les superbes, super programmes de HBO avec lesquels vous pourrez vous éclater, comme la série Succession, qui fut un succès sur 2 saisons. SFR s'y met tout autant depuis le 18 mars et pour un mois, dès activation depuis l'application SFR et moi ou l'espace client web, vous pourrez donc profiter des bouquets jeunesse, divertissement, people et documentaires. Enfin, Bouygues qui offre 34 chaînes en clair jusqu'au 30 avril pour ses clients Bbox. Bonne idée solidarité ou simple stratégie commerciale selon toi?
Eh bien, déjà dans un premier temps, je note que Bouygues est moins optimiste que
C'est ce que j'ai vu aussi. La vache.
Eux, ils vont jusqu'au 30 avril, donc
ouais.
C'est
ça. Ils ont tout compris.
Ils ont tout compris. J'ai pas noté, mais du coup, quel est le nom de la série sur Orange?
Alors, c'est Succession.
Succession, donc ça, j'y réfère à tout.
Allez, excellente.
Et puis non, c'est une vraie très bonne idée.
Ouais, je trouve.
Ça peut éviter à beaucoup de gens d'aller chercher sur Internet
ouais.
des programmes plus ou moins bien foutus
ouais.
Avec je pense que c'est une bonne chose.
Ouais,
je pense
c'est
que c'est une
clair.
Bonne chose. Après, bien évidemment, je me doute que les uns et les autres auront de la suite dans les idées, mais ça ne change pas la problématique de ces messieurs qui se retrouvent confinés à la maison et qu'il n'y a pas de foot.
C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ah bah mince alors. Il n'y a
donc
pas
voilà,
de foot.
Donc, à part les replays, il n'y a pas de foot, il n'y a pas de sport. Donc,
ouais. Mais ce qui est bien, c'est sur Canal+, il y a une chaîne sport, donc c'est pas mal pour les documentaires sportifs, etc.
Bon,
pour voir l'intérieur, les coulisses des athlètes, ça permet un petit peu de
ouais.
sortir du champ match, etc. Alors, nous vous parlions de séries en introduction d'émission, hein, même si les studios ont stoppé toute leur production suite à la propagation du virus Covid-19. Voici une sélection de séries sympas qui vous attendront sur les chaînes câblées, US et plateformes de streaming d'ici la fin de la situation sanitaire mondiale. Alors, voici pour Apple TV+, qui continue de se faire remarquer et à gonfler son catalogue avec une série documentaire intitulée Dear, point de suspension, qui dévoilera la vie de personnalités à partir de lettres écrites par ceux qu'ils ont influencés. Au cœur de 10 épisodes à venir, Spike Lee, Stevie Wonder, Gloria Steinem, Oprah Winfrey, Lin-Manuel Miranda, Yara Shahidi, Ali Reisman, Misty Copeland et Big Bird. La série documentaire est inspirée de la publicité Dear Apple, dans laquelle les utilisateurs de l'Apple Watch racontaient à la marque comment la montre connectée, numéro 1 dans les ventes dans le monde, a changé leur quotidien. Intéressante cette série?
Oui, ça c'est intéressant parce que je vois de plus en plus de séries comme ça ou de documentaires comme ça
ouais.
qui présentent des angles différents qui sont un peu plus immersifs, mais en même temps qui se détachent un petit peu de la télé-réalité et donc qui donnent un caractère plus intéressant à l'information qui est divulguée. Donc moi je trouve ça très très bien moi.
Ouais, et puis c'est le type de documentaire qu'on a l'habitude de voir, qu'on en trouve encore beaucoup sur Netflix, où des personnalités nous permettent de rentrer dans leur quotidien, dans leur créativité, même si et puis ça nous influence surtout de se dire que voilà, leur manière de vivre, leur manière de faire, que c'est possible. Après la chute de la société américaine de coworking WeWork, des idées de séries et films ont rapidement émergé. Deux séries sont notamment prévues, dont une au format limité développée par Apple et produite pour Apple TV+, inspirée d'une série de 6 épisodes podcast nommée We Crushed. The Rise and Fall of WeWork, la montée et la chute de WeWork, par David Brown. C'est le type de sujet qui t'attire les grandes chutes américaines.
Non, pour le coup, Pour le coup, non, parce que je suis de ceux qui pensent que... enfin, j'ai intégré au fur et à mesure que la société américaine est la première à créer des grands groupes
Mais oui.
Pour les écrouler après et
c'est
pour
refaire ça.
Autre chose.
Ouais.
En fait, je crois que c'est dans la nature, de, dans l'approche du travail à l'américaine, où on fait quelque chose, on gagne sa vie, et puis où on gagne très bien sa vie, où on fait fortune, et puis une fois qu'on a fait le tour, on plante et puis on fait autre chose.
Ouais.
Et je pense que c'est surtout ça. Et donc une fois on l'a vu pour quelques entreprises, et après j'y vois pas un intérêt particulier.
C'est vrai que les Américains ont tendance à vite élever certaines personnalités, parce que c'est vrai que chez WeWork, c'est plutôt le fondateur Newman, hein, qui a été très vite mis en avant. Et du coup, c'est vrai que c'est un jeu entre les deux, entre ceux qui sont mis en avant dans les médias et la société. Je pense que faut garder des choses un peu privées pour pas justement que la chute, quand elle se fasse, elle soit terrible, quoi, du coup. Ensuite, sur Showtime, et donc à suivre sur Canal+, qui a un contrat d'exclusivité avec la chaîne américaine, une série d'anthologies sera prochainement consacrée aux premières grandes dames des États-Unis. Eleanor Roosevelt, Betty Ford et Michelle Obama, cette dernière interprétée par Viola Davis. Voici les quelques portraits de femmes qui seront présentés pour la première saison, leur vie personnelle comme politique et comment chacun des domaines a eu de l'impact sur l'autre et donc les décisions globales. Qu'en dis-tu?
Mais écoute, c'est... Je pense que c'est très très intéressant parce que là ça touche à l'histoire, ça touche aussi aux coulisses de l'histoire.
C'est vrai.
Et je pense que il y a certains présidents qui ont été fortement influencés par leurs femmes, pas forcément par leur implication politique, quoique une Jackie Kennedy était très impliquée. Donc,
ouais.
Elle a forcément beaucoup, beaucoup influé. En tout cas, c'était un petit peu une espèce de phare pour Kennedy.
Ouais.
Michelle Obama,
aussi.
Elle a quand même été, pour moi, c'est la plus grande première dame que j'ai connue de mon vivant.
Et puis quand même, elle a quand même fait des études d'avocat. Elle s'y connaît quand même. Hein, elle s'implique dans la vie du pays.
Ouais, et donc c'est important, c'est intéressant de voir que le pouvoir ne se vit pas seul. En fait, on élit certains hommes, mais on les lit avec son histoire personnelle, et son histoire personnelle fait partie de la façon dont un pays peut être gouverné.
Ouais.
On se souvient que Roosevelt était handicapé, et donc il est bien évident que sa femme a dû avoir un rôle pour l'aider à tenir pendant
tout à fait. C'est
bon,
clair.
Très bien.
C'est clair. Et puis c'est pour ça que certains gouvernements font en sorte que quand même que quand un président soit élu, qu'il soit accompagné d'une femme ou d'une famille pour que ça soit équilibré, quoi.
Mais complètement.
Tout
complètement.
À fait. Tu connais la série Power?
Oui.
Tu l'as regardée?
Écoute, j'en ai regardé un bout. Et puis après, est arrivé un moment où...
Saturation.
Non, mais c'est pas ça, c'est qu'on avait l'impression que de toute façon, le jeu équipe, plus c'est bien compliqué, et plus il s'en sort.
C'est ça. Comment un personnage qui se fait brûler de la tête aux pieds revient à la vie? C'est Walking Dead, là.
entre ça et puis même lui, j'ai trouvé les deux premières saisons plutôt sympas.
Ouais.
Et après, j'ai lâché, quoi.
Ouais, c'est plus c'était rocambolesque, plus c'était intéressant pour certains fans. Alors, justement, la série Power, de Stars, hein, autour de la vie de dealer de drogue de New York, n'a pas prévu de dire au revoir sans suite après 6 saisons. La showrunner Courtney A. Kemp et 50 Cent prévoient non pas 1, mais 4 spin-offs qui engloberont l'univers de la franchise Power. Alors, il s'intitule Power Book 2, Ghost, Power Book 3, Raising Kanan, Power Book 4, Influence et Power Book 4, Force. 4 zooms sur la vie antérieure des personnages prêts à tout pour réussir et le futur post-drogue de fort profil de la série originale. Parmi le casting de certains spin-offs, on a Marriage Oblige et Method Man. Sympa?
Écoute, oui, plutôt sympa. En plus, là, pour le coup, j'aime bien le... j'aime bien la voix de Method Man.
Oui.
Je
Il est bon acteur
ouais.
en plus, hein.
Il joue bien,
Ouais.
mais surtout sa voix, il a un rythme. Même quand il parle, il crie. Et
Ah
donc, du
ouais.
coup, j'ai regardé. J'avais regardé, j'avais pas bon, même si là on parle d'une série qui pour moi est cultissime, hein, c'est The Wire, mais
Ouais.
j'avais trouvé très sympa son arrivée dans la
Ouais,
série.
c'est vrai.
Et donc voilà, c'est très bien.
C'est
Method Man,
clair.
du coup, allez, ils vont m'arrêter tout de suite.
C'est clair. Et puis on note que Mary J. Blige, on l'a vu un petit peu sur quelques réseaux, ils ont commencé à poster des photos. Apparemment, serait une baronne de la drogue. Donc voilà. Terminons avec une réunion qui va faire plaisir à beaucoup, celle de la série Friends, dans la continuité de la célébration du 25e anniversaire de la série qui cartonne bien plus qu'au temps de sa diffusion. HBO, qui en possède les droits à travers le studio Warner Bros., réunira le casting ainsi que les créateurs pour un événement spécial à l'occasion du lancement prochain de leur nouvelle plateforme de streaming HBO Max. Content ou tu t'en fiches?
Alors là, pour le coup, Friends, c'est un. Enfin, tu sais, moi, il y a 25 ans, enfin, ces années, je travaille, donc du coup, j'ai jamais vu cette série, je ne sais pas
Tu
ce
es
que c'est.
sérieux?
Oui, je suis sérieux.
Wow! Mais ça passe sur plein de chaînes.
Non, mais je n'ai jamais vu cette série. Je
Même
ne
sur
sais pas ce
Netflix, elle y est aussi.
que c'est. Il faut y rester, hein?
Non, elle va quitter puisque HBO, Warner Bros. A repris les droits parce que justement Netflix se faisait des gros sous avec cette série et du coup ils se sont dit bon, on va reprendre notre produit du coup. Mais t'as jamais regardé Friends? Je te conseille, c'est vraiment une très bonne série.
C'est avec qui?
Jennifer Aniston, tu vois ce genre de personnage, tu
Ouais,
vois.
là, non. Non, non. Non,
Non.
non, merci.
Bah, en tout cas, c'est très sympa, c'est très très drôle, ça dure 20 minutes. Et puis, c'est des moments entre amis, voilà, c'est pour ceux qui sont dans le confinement, je trouve que ça va être sympa. Parce que tu sais, le tournage un peu à l'ancienne, entre quatre murs, rarement des sorties dehors, ce genre de choses, donc voilà.
Ah oui, d'accord, je vois.
Tu vois.
C'est vraiment reality, enfin pas reality show, mais oui, je vois ce que
Oui,
c'est.
avec le public qui rit vraiment, ce genre de choses. Donc, c'est très très drôle. En tout cas, moi, je sais que quand j'ai rien à regarder ou que j'ai pas envie de m'épuiser, je mets un Friends et je rigole bien. Terminons les actus avec un point fitness parce que vous pouvez difficilement sortir de chez vous malgré que le gouvernement permet de s'échapper pour un jogging seul, uniquement. Hein. Toi, JP, tu en as fait l'expérience à vélo bloqué par les bus.
Oui, mais oui, non, non, mais enfin bon, j'avoue que j'avais, enfin bon, c'est complètement irresponsable.
Ouais.
Je n'encourage pas. Mais en tout cas,
Oui.
j'ai été gentiment, de façon très courtoise,
Oui.
j'ai été amené
À faire demi-tour.
à retrouver mes esprits, à faire demi-tour et à rentrer chez moi, ce que
Oui.
j'ai fait. Et
Bah
donc.
justement, le gouvernement a annoncé, je pense qu'il y a beaucoup de gens comme toi qui se sont dit, bon, ils ont dit qu'on peut faire du sport, donc c'est normal. Je pense que ton comportement n'était pas insensé non plus, puisqu'on nous permet de faire du sport seul, donc tu as pris ton vélo. J'ai vu beaucoup de gens à vélo. D'ailleurs, je vois beaucoup plus de gens faire du sport tout d'un coup. Mais
Ouais.
ils ont annoncé aujourd'hui que ceux qui veulent pratiquer du sport n'en fassent pas plus de 2 km de leur domicile. Donc comme ça limite. Direct. De nombreuses plateformes en profitent pour mettre en avant leur offre de programmes de sport en ligne, notamment Shaping, que nous avions interviewé la saison dernière dans le Lunch Show. Et puis Puma, qui s'associe à l'application de coaching PhysUp.com pour offrir gratuitement, eux, l'accès à un catalogue de 300 exercices simples, des challenges, des séances sans matériel et pour tout niveau. Également un planning nutritionnel incluant des recettes pour tout style alimentaire. Hein, la gratuité devient vraiment un outil marketing, hein, JP. Pour avoir accès à PhysUp Premium jusqu'au 16 mai, ils sont encore plus larges, hein, que Bouygues. Nouveau.
Oui, ils veulent se laisser du temps pour appâter le client.
C'est ça. Nous vous préciserons le lien dans l'éditorial de l'émission du code d'accès. Sinon, en termes d'information, hein, le ministère des Sports et tout le gouvernement qui nous accompagne pendant cette période incite le public, hein, durant cette situation sanitaire exceptionnelle, à pratiquer une activité physique et partage de nombreux conseils à travers leur partenariat avec les applications Bisport, MyCoach et GovApp, en association avec des fédérations sportives ainsi que le Comité national olympique et sportif français. Des contenus sont donc proposés ainsi que des recommandations à retrouver donc sur les sites sports.gouv.fr et puis les trois applications dont on vient de citer. C'est vraiment bien, hein, que le gouvernement accompagne les Français aussi bien sanitairement que financièrement et même économiquement, hein, durant ce temps. Qu'en penses-tu?
Oui, je pense que de toute façon, il est nécessaire là de montrer des alternatives aux gens. Hein.
Ouais.
Les gens, enfin moi je vois j'ai aussi le temps maintenant de voir un peu ce qui se passe sur Facebook. Enfin, on est à J+2, c'est à partir de mardi, on est
à J+3.
Ouais. Eh bien.
J+4 même, puisqu'on est le 20 mars.
Ouais, on voit déjà des gens qui craquent, quoi.
Ouais. Donc, t'es obligé de prévenir pour ceux qui paniquent aussi économiquement, pour les finances, tout le monde, vraiment, les banques. J'ai reçu des mails de la banque, j'ai reçu des mails de pas mal de choses, des impôts pour nous dire que ce soit entreprise, entrepreneur, etc., que vous serez accompagné. Ne partez pas à la panique, genre The Walking Dead, ce genre de choses. Je pense qu'ils font tout pour nous rassurer et qu'on part pas dans la parano, donc voilà.
Ouais.
Bon. Continuons avec l'interview de Loïc Ternicien, naturopathe, qui sort le guide saison par saison que l'on a interviewé il y a quelques instants en dehors de cet enregistrement pour nous parler de son ouvrage, nous donner quelques conseils de santé. Bonjour Loïc, comment allez-vous ?
Ça va très bien, vous ?
Dans cette situation, on fait très très bien aller d'ailleurs. On essaie de ne pas aller à la panique. C'est assez difficile pour certains, mais on garde la bonne humeur, on essaye d'être cordial avec tout le monde, on dit bonjour, essaye de lâcher des sourires. Et de votre côté ?
Ah bah, moi, de mon côté, je suis enfermé, donc tout va bien. Mais j'ai l'avantage d'avoir une très belle terrasse,
oui,
et de pouvoir profiter du soleil.
Je vois la lumière de chez vous, en tout cas. On va commencer à vous présenter par rapport à votre ouvrage. Tout d'abord, vous êtes naturopathe énergéticien spécialisé en aromathérapie et en herboristerie. Vous collaborez avec le corps médical et vous êtes le fondateur du programme éducatif de rééquilibrage alimentaire à retrouver sur niam.fr. On dit bien niam, hein ?
Oui, niam.fr, niam.fr, ça veut dire niam en coréen.
Alors, le naturopathe a souvent mauvaise réputation, je ne sais pas si vous y êtes frotté, vous êtes considéré comme des faux médecins qui surfent sur la tendance du naturel, selon certains professionnels de santé qui conseillent de vous éviter. Pourtant, lorsqu'on vous lit, vous avez une approche plutôt complémentaire à la médecine moderne et on parle tout de même de soins à base d'éléments provenant de la nature. Alors, qu'est-ce qui a fait mauvaise réputation au métier de naturopathe ?
Oula, je pense que c'est avec le temps. De toute manière, il faut savoir qu'à la base, la naturopathie, Hippocrate était un, si on revient vraiment dans le passé,
ouais,
naturopathe considéré comme le père de la médecine, à l'époque, utilisait des plantes.
Ouais.
Donc, c'était ce que l'on pourrait considérer aujourd'hui comme un naturopathe.
Mmh.
Avec le temps, c'est sûr que la science a pris beaucoup les devants et donc ça c'est une première chose, donc ce qui est un peu rangé l'herboristerie qui est vraiment l'utilisation ancestrale des plantes au placard.
D'accord.
Donc c'était à l'après-guerre.
Oui.
Et avec le temps c'est sûr que on va pas se le cacher, il y a aussi beaucoup de naturopathes qui vont faire un petit peu tout et n'importe quoi,
mais
ce qui alimente un petit peu cette fausse croyance ou cette croyance que beaucoup de naturopathes d'éviter d'aller voir les naturopathes, alors que moi, comme vous l'avez dit en introduction, moi, je travaille avec le corps médical, les naturopathes ont leur force,
tout à fait.
Autant que la médecine chimique a sa force.
Tout à fait.
Et quand on travaille main dans la main pour aller justement dans le bien-être de la personne qui vient nous voir, moi je viens du Québec et là-bas, au Canada, en tout cas, la médecine intégrative existe, c'est-à-dire on travaille main dans la main avec des ostéopathes, des chirurgiens, des médecins, des naturopathes pour justement avoir la problématique de la personne et la guider vers le rééquilibrage. Et ça existe dans d'autres pays.
Tout à fait.
Je pense qu'en France, ça arrive.
Oui.
Moi, je vois beaucoup d'infirmiers qui passent dans mon bureau, je vois beaucoup de médecins qui passent dans mon bureau. Donc, bon, les choses changent.
Oui, les esprits s'ouvrent et puis au fur et à mesure, on essaye quand même de trouver des solutions un peu plus naturelles, justement. Ouais. Qu'est-ce qu'un naturopathe énergéticien ?
Alors, c'est deux choses différentes. Donc, le naturopathe, déjà, ce n'est pas quelqu'un qui passe son temps à boire des tisanes. J'ai une petite vidéo humoristique là-dessus sur les réseaux sociaux.
Ah ouais.
Le naturopathe est quelqu'un qui est là pour guider la personne vers le rééquilibre. C'est-à-dire qu'on va prendre le corps d'une manière globale, on va le regarder d'une façon holistique, c'est-à-dire vraiment dans sa globalité, vous n'êtes pas juste un foie sur pattes, vous n'êtes pas juste un intestin ou un rein, vous êtes un ensemble d'organes, vous êtes un ensemble d'émotions, vous êtes vous avez un cerveau qui réfléchit, et ben, on le sait maintenant, hein, il y a aussi même des agents extérieurs, c'est-à-dire des bactéries, 100 000 milliards de bactéries au niveau des intestins qui interagissent avec nous au quotidien. Le naturopathe va avoir une vision globale de la personne, la personne vient pour une problématique, et on va faire des cercles concentriques autour de la personne avec ce que l'on appelle une anamnèse, donc un gros questionnaire de bilan pour essayer de voir où se trouve la potentielle cause de déséquilibre.
D'accord.
Et plutôt que de travailler uniquement sur la conséquence, le naturopathe va essayer de travailler sur la cause du déséquilibre.
D'accord.
Ça, c'est vraiment le côté naturopathe. Le côté énergéticien, ça, c'est autre chose. D'accord. Tous les naturopathes ne sont pas nécessairement énergéticiens.
D'accord. C'est une spécialité.
Oui, c'est une spécialité. C'est, disons, pour faire bref, c'est quelqu'un qui a certaines capacités, certains outils extrasensoriels, de travailler plus avec les corps énergétiques de la personne.
Par exemple.
Et c'est un de mes outils de naissance.
Alors, on peut dire que c'est comme un don ?
On peut dire ça comme ça.
D'accord. Ok, génial. La raison de votre présence, c'est que vous avez sorti fin janvier chez Flammarion votre premier livre intitulé Naturopathie, le guide par saison, un outil pratique à travers lequel vous éduquez sur la manière de prendre soin de soi et prévenir cela grâce à des produits naturels et donc de saison. Tellement de livres sont disponibles dans les librairies sur ce sujet. En quoi le vôtre diffère ?
Alors, naturopathie, le guide saison par saison, c'est vraiment justement le lien avec les saisons.
Oui.
C'est un guide qui nous remet en contact avec notre saisonnalité, notre côté animal, parce qu'à la base, nous sommes des animaux comme les autres, et ils ont une influence sur nous. Il y a juste à regarder l'hiver, on a tendance plus à se renfermer sur nous-mêmes, à être plus en mode cocooning.
C'est ça.
Le printemps, en ce moment, où les plantes se réveillent, où nous nous réveillons, l'été, où on n'est plus dans le dynamisme, eh bien, c'est ça qu'on va retrouver dans le guide, c'est le contact avec notre... avec la nature, avec le cycle des saisons, et avec la base. C'est-à-dire que dans un premier temps, la naturopathie, c'est travailler sur son alimentation, travailler sur son hygiène de vie, travailler sur son sommeil, travailler sur tous les aspects, disons, qui sont là toute l'année.
Oui.
Ensuite, chaque saison, eh bien, va avoir ses défis.
Oui.
Là, nous sommes au début du printemps, où le printemps arrive dans quelques heures. Eh bien, qu'est-ce que l'on va devoir faire ? Eh bien, normalement, on a déjà commencé à travailler sur le printemps depuis quelques semaines pour prévenir des allergies saisonnières. Le printemps, on va avoir les allergies à traiter, on va avoir quelques petits déséquilibres du printemps, et on va préparer l'été. Et on fait ça chaque saison, les unes après les autres, c'est-à-dire travailler les bobos de la saison et préparer la saison suivante. Et pour ça, bien, on va utiliser des plantes particulières, on va utiliser des suppléments particuliers, une alimentation particulière, adaptée à ce fameux cycle naturel des saisons.
C'est bien. Et puis, ce que j'aime bien aussi dans votre livre, c'est que vous incluez aussi la personnalité, les tempéraments. Donc, on peut trouver aussi des fiches produits. C'est vraiment un guide dans lequel on n'est pas obligé de lire du début jusqu'à la fin, mais qu'on peut ouvrir les pages et chercher ce dont on a besoin.
C'est exactement ça. C'est ce que j'ai voulu faire. Moi, je suis quand même très présent sur les réseaux sociaux depuis pas mal d'années. Et j'ai vraiment comme mission d'éduquer, de vulgariser, mais surtout de rendre les gens autonomes. C'est ce que j'ai voulu faire au travers de ce livre, c'est-à-dire donner des trucs, des astuces, permettre aux gens de se connaître et de se reconnaître en fonction justement de ces fameux tempéraments d'Hippocrate, et ensuite eh bien, d'être en mesure de pouvoir faire ce dont ils ont besoin, soutenir leur corps et en même temps soigner leurs petits bobos saison par saison. Et donc, effectivement, on peut le lire d'une traite ou on peut l'user page après page, année après année, saison après saison.
Tout à fait. Vous parliez du rééquilibrage alimentaire, base de la naturopathie. C'est tellement logique, mais c'est si peu et mal appliqué. Alors, quelles sont les bases simples du rééquilibrage alimentaire à mettre en place dans son quotidien ?
Alors, dans son quotidien, ce qu'il faut savoir, c'est que l'alimentation va être adaptée pour chacun des tempéraments. Les tempéraments, c'est quatre classes de personnes, disons, que Hippocrate avait mis de l'avant à l'époque. Et justement, en fonction de si nous sommes un nerveux, un lymphatique, un bilieux ou un sanguin, on ne mangera pas la même chose. Pour donner une petite image pour les personnes qui nous écoutent, le nerveux, c'est Coyote dans Bibi et Coyote. Le lymphatique, c'est Winnie l'ourson. Le sanguin, c'est Gérard Depardieu. Et le bilieux, Arnold Schwarzenegger. Donc là, vous avez vraiment les quatre personnes personnages différents, et eux ne mangeront effectivement pas la même chose. Pour revenir sur le côté rééquilibrage alimentaire, le but n'est pas de modifier son alimentation sur le plan calorique, mais sur le plan qualitatif. C'est-à-dire on va manger beaucoup plus, certes, de végétaux, on va faire attention au gluten, on va faire attention aux produits laitiers, on va faire attention aux produits qui vont avoir tendance à minimiser l'énergie du corps, hein, parce que le corps va avoir besoin de beaucoup trop d'énergie pour digérer ces aliments-là, de manière justement à permettre au corps de faire ce qu'il doit faire.
Tout
le corps, on l'imagine, je l'imagine comme un funambule, un funambule avec sa barre, et il passe son temps à devoir rester à l'équilibre. Eh bien, si on passe son temps à manger du fast-food, il a tendance à pencher d'un côté, c'est-à-dire qu'il va passer toute son énergie à essayer de rééquilibrer le fait qu'il n'a pas assez de vitamines, le fait qu'il a des composés inflammatoires dans le corps, etc. Et donc, il y a un moment, il va lâcher prise et il peut créer un déséquilibre qu'on appellera une maladie. Le rééquilibrage alimentaire fait en sorte de booster notre système pour que notre funambule reste à l'équilibre et il s'occupe que de l'essentiel.
Tout à fait. Donc, on fait attention aussi bien au moment dans la journée dans lequel on mange. Par exemple, si on est au bureau, on essaie quand même de ne pas manger des choses très lourdes où le corps aura besoin de digérer plus lentement. Ou par exemple...
Sinon, on va dormir.
Oui, voilà, c'est... Exactement. Ou également de ne pas manger trop de viande. Ou également de faire attention aussi à certaines associations.
Alors, les associations alimentaires, c'est une école de pensée en naturopathie qui n'est pas la mienne.
D'accord.
Moi, je préfère vraiment plus travailler sur le côté qualitatif, mais pas avec les associations alimentaires, mais plus à regarder que on apporte bien ce dont on a besoin, puisque dans chaque aliment, il y a des petites briques, et que ces petites briques, le corps en a besoin pour construire ses murs et son fonctionnement. D'accord. Et donc, pour ça, il faut s'assurer d'avoir un intestin fonctionnel qui puisse assimiler les aliments, comme je le dis dans le livre, nous ne sommes pas ce que nous mangeons, nous sommes ce que nous assimilons. Et pour pouvoir assimiler, il faut avoir un système digestif qui fonctionne de manière optimale. Et ça passe par notre alimentation. D'accord. C'est plus ma vision des choses.
Oui, bien sûr. Mais justement, j'en profite. Alors, du coup, quel est votre avis concernant le pairing alimentaire, comme on dit, l'association des aliments, ce genre de choses? Qu'est-ce que vous pensez à ce niveau?
Moi, je pars du principe que le corps est très bien fait. Que l'homme préhistorique ne s'embêtait pas à regarder les associations alimentaires. Il y a aussi des études qui nous montrent que ça a des conséquences pas nécessairement positives sur la durée, et que c'est quelque chose qui peut être fait sur certaines périodes, mais à prendre avec des pincettes. C'est pour ça que moi, dans l'estomac, certains aliments ou certains composés vont être digérés en premier, les gras à certains moments, les protéines à d'autres moments. Donc, à partir du moment où on mélange, entre guillemets, tout, ça va être digéré par phase.
D'accord.
Donc, le corps fait plutôt bien les choses normalement.
D'accord. Donc, vous n'êtes pas pour, par exemple, manger des fruits au milieu du repas, hein?
Ah non, mais ça, c'est sûr que le fruit va se digérer plus rapidement. Donc, si on prend, moi je pensais que vous parliez plus des protéines faibles.
Non, je parlais vraiment des types alimentaires, par exemple, certains.
Dans ce cas-là, oui, nous savons qu'il y a certains aliments qui vont se digérer plus rapidement.
Tout à fait.
Par exemple, prendre des fruits en début de repas ou en milieu de repas, la digestion va être trop
compliquée.
Disons, elle va être mélangée avec le reste, ça peut créer de la fermentation et de l'inflammation digestive. Dans ce cadre-là, oui, effectivement, il faut en tenir compte un minimum. Mais je pensais vraiment qu'on parlait plus de sucre. Faible, protéines fortes, protéines faibles.
D'accord, ok. C'est bon à savoir, on vient d'apprendre aussi quelque chose du coup. Alors, nous vivons une période difficile avec un virus qui sévit dans le monde, où nos styles de vie sont plus que bouleversés, en plus d'un changement de saison qui se présente ce week-end, comme on en a parlé tout à l'heure. De quelle manière s'adapter et ne pas en plus ajouter de la psychose que subit notre corps, car on sait que le corps est le reflet de ce qui se passe en nous?
Alors, la première chose, déjà, c'est de lâcher prise. Lâcher prise. Et pour ça, peut-être de ne pas se surinformer. C'est une première chose, ça va être de soulager le mental. D'essayer de laisser place au corps en premier. Donc, tout ce qui va être psycho... En naturopathie, par exemple, on peut travailler pour les personnes qui stressent, qui vivent des périodes d'angoisse en état confiné, ce qui est tout à fait logique. Eh bien, il y a le rescue remedy en fleur de Bach qui peut être intéressant. Une petite goutte de citron sur d'huile essentielle de citron sur un mouchoir ou de bergamote à respirer quand on commence à avoir de l'angoisse ou du stress. Ça va être très utile. Après, bien évidemment, ça va être de booster son système immunitaire. Dès l'automne, comme je le dis dans mon naturopathie, le guide saison par saison, le système immunitaire se travaille à l'automne. Là, si on s'y prend un petit peu à la dernière minute, il y a des composés qui vont être intéressants.
Oui.
Il y a l'échinacée qui peut être intéressante, oui. Il y a la vitamine C en poudre sous forme d'acide L-ascorbique qui peut être intéressante.
Oui.
Il y a un antioxydant qui a été, parce que comme peut-être vous l'avez lu, et qui écouterait, je viens du Québec, et
oui, tout à fait.
Qui utilise la quercétine, qui est un composé que l'on trouve par exemple dans l'oignon, pour lutter contre certains virus comme le Stras ou Ebola,
d'accord.
Et qui a démontré l'efficacité et qui explique justement que là en ce moment ils sont en train de faire des tests,
d'accord.
Pour soigner le coronavirus à partir de quercétine, et ça c'est un composé qu'on retrouve dans toutes les épiceries bio ou dans toutes nos pharmacies, et c'est un composé qui peut être utile aussi pour se rassurer, et bien évidemment on se lave les mains, et on prend toutes les mesures de précaution nécessaires.
Oui, on en a parlé à l'instant, vous vivez entre la France et le Québec, vous êtes bloqué pour quelque temps encore en France.
je reviens juste du Québec,
c'est ça.
Ça va, j'avais prévu de repartir au mois de septembre.
Ah, vous restez un bon moment quand même, ce ne sont pas des voyages tous les mois, ce genre de choses quand même.
Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand j'étais installé au Québec, je venais en France une fois par année pour pratiquer.
D'accord.
Et depuis que je me suis réinstallé en France pour la sortie de mon livre,
oui.
Eh bien, je retourne au Québec à peu près tous les 3 mois pour aller voir mes clients, donner des conférences, des ateliers.
D'accord.
La même chose que ce que je fais en France, mais sur place et en condensé là-bas. Je fais ça en 10 jours.
Ah, génial. Ok, très bien. Ben, profitons de vous. Qu'est-ce que vous mettez en place, vous, justement, pour vous protéger en cette période?
Bah, ce que je viens de dire, moi j'ai ma petite cure de vitamine C quotidienne, ma petite cure d'échinacée que je prends 3 fois par jour.
Oui.
Il faut savoir qu'en fait, pourquoi est-ce que moi j'ai mis en place beaucoup de choses, c'est que jusqu'à il y a 4 jours où j'ai été entre guillemets rapatrié d'urgence d'Annecy parce que je savais que j'allais être bloqué là-bas, je donne des conférences partout au travers de la France.
Oui.
Et donc dans les 3 dernières semaines, j'ai fait un aller-retour au Québec, j'ai pris 2 avions, j'ai pris des trains, j'ai rencontré à peu près... sans exagérer, à peu près 700 personnes que j'ai dû croiser dans les conférences.
Ouais.
Et donc, évidemment, pour me protéger,
ça fait
un moment que je booste mon système immunitaire, que je prends de la quercétine, que je prends du zinc, que je prends de la vitamine C, que je prends même de la chlorophylle pour alcaliniser le terrain, pour me permettre de passer outre. Il faut croire que ça n'a pas trop mal marché, parce que depuis, je me sens très très bien. Et voilà, là, je vais prolonger encore pendant à peu près 15 jours, puisque c'est la durée de gestation, on va dire ça comme ça, du virus dans le corps.
D'accord.
Et un jour, là, je vais commencer à diminuer mes dosages vu qu'on est confiné, je ne devrais pas avoir trop de problèmes, je ne devrais pas attraper quoi que ce soit maintenant.
Tout à fait. Sinon, quels aliments privilégier alors que nous sommes confinés chez nous, hein, nos placards à disposition et pour certains contenant tout ce qu'il faut pour leur faire prendre du poids, quels aliments s'il le faut à privilégier?
Alors là, ce qu'on va privilégier, c'est tout ce qui va alimenter le microbiote intestinal, ces fameuses 100 000 milliards de bactéries qui ont un impact énorme sur le système immunitaire.
Oui.
Un mauvais microbiote donne un mauvais système immunitaire.
C'est
Et là, effectivement, on va essayer de minimiser les céréales. Donc non, les pâtes, ce n'est pas la meilleure idée. Non, le riz, ce n'est pas la meilleure idée. Par contre, eh bien, vous pouvez aller, par exemple, dans des épiceries où vous allez avoir des fruits et légumes frais ou
c'est
congelés.
Ça.
Qui vont vous permettre, en fait, non seulement de les conserver au congélateur si vous en avez ou au freezer, et de pouvoir alimenter les bonnes bactéries. Et pour ça, bien, essayez d'avoir ce qu'on appelle des prébiotiques, ce sont des aliments qui vont alimenter les bactéries, comme le poireau, comme l'asperge,
d'accord.
Et manger beaucoup de fruits et légumes,
tout
et on essaie de minimiser les céréales, le riz et les pâtes.
C'est clair, les aliments qui stockent.
C'est ça, aussi.
Oui.
C'est sûr que, bon, si on n'a pas envie de stocker, on essaie de minimiser les sucres.
Tout
on peut picorer, mais picorons des amandes, par exemple.
Exactement, il y a beaucoup de fruits secs qui sont à disposition. Et en plus, beaucoup de supermarchés proposent des sachets à 99 centimes. Pour info, pour ceux qui veulent faire leurs courses, justement.
Ah, attention aux fruits secs. C'est
extrêmement
riche en sucre. Donc,
oui, ceux qui sont ni salés, ni sucrés, ça va. Ni salé, ni sucré.
Oui, mais ça reste qu'un fruit sec est un fruit donc, et possède du sucre à l'intérieur. Donc, quelqu'un qui ne ferait pas de sport et qui mangerait des fruits secs toute la journée, rendez-vous dans un mois, il risque d'avoir un peu bougé sur la balance.
D'accord.
Mais c'est mieux ça que de manger des bonbons.
Tout à fait, exactement. Et moi, je parlais, quand je disais fruits secs, je parlais des fruits à la coque, les noix, les choses comme ça.
Ok, les noix, les
fruits,
vous pouvez y aller.
Ah, génial, parfait. J'ai pris des bonnes choses.
On va faire plaisir avec ça. Attention juste à l'arachide, qui est pro-inflammatoire. Et qui va inflammer le corps en général. Donc, on essaie d'éviter les arachides et de privilégier les amandes, les noix de macadamia qui sont excellents.
Génial. 3 conseils, on en parlait de la transition hiver-printemps. Vous avez 3 conseils pour bien la vivre particulièrement?
Ah oui, définitivement. La première chose qui va être faite, et c'est ce que je mentionne dans mon ouvrage,
Tout à fait.
ça va être de faire une cure d'ortie. L'ortie va être très importante. C'est une plante qui est un petit peu. C'est une plante couteau suisse. Elle fait
D'accord.
tellement de choses que finalement, on n'arrive pas à en retenir une seule. Mais c'est une grande minéralisante et elle va être excellente pour prévenir des allergies saisonnières. Donc, les
D'accord.
personnes qui ont des allergies saisonnières, un, vous commencez par l'ortie, et ensuite vous pourrez basculer vers le deuxième conseil qui sera de faire une petite cure détox. Et ça,
D'accord.
vous pouvez commander, on peut heureusement se faire livrer encore maintenant,
Oui.
mais herboristerie en ligne qui permettent de livrer par exemple de la sève de bouleau, c'est la saison pour les récolter,
Tout à
et donc
fait.
de faire une cure détox pour permettre à son système de s'optimiser au maximum.
Oui.
Ça, c'est les deux premiers conseils.
Oui.
Et ensuite, eh bien, ça va être de prendre soin de soi et de se reposer et
Tout
de
à
lâcher prise.
fait.
Mais là, on n'est pas tellement dans la saisonnalité, on est plus dans le contexte actuel.
Oui, c'est
Ah,
ça.
peut-être que faire un petit peu de cohérence cardiaque, un
Oui.
petit peu de méditation,
Tout
de
à fait.
respiration, ce
Oui.
qui va nous permettre de passer outre ce confinement et en même temps ce changement de température et cette frustration que nous ayons peut-être une
Oui.
très belle température à l'extérieur et que nous soyons à
C'est
l'intérieur.
vrai. Et j'ai beaucoup aimé le conseil du président de la République, le président Macron, lundi soir lors de l'annonce du confinement. Lisez.
Oui, lisez, effectivement, il y a un super livre qui s'appelle Naturopathie
Tout
d'une petite artisan, que vous pouvez commander,
j'ai trouvé
et
ça.
il vous donnera toutes des astuces pour bien préparer votre été, hein, parce que
Ouais.
là, le printemps risque d'être enfermé, donc préparez
C'est
votre
C'est clair. Mais j'ai adoré que le président parle de ça. Et dernière petite question, est-ce que vous avez un prochain... Bon, il vient de sortir, mais est-ce que vous prévoyez déjà quelque chose, un prochain ouvrage ou d'autres projets, Loïc?
Alors, il faut savoir que moi, je suis une machine à créer.
Ah, génial.
Des projets, j'en ai plein.
Ouais.
Dont je peux parler, j'en ai un
Oui.
qui s'appelle l'Institut d'aromathérapie énergétique,
D'accord.
qui est en cours de création. Donc les personnes qui taperaient aromathérapie-énergétique.com peuvent se mettre déjà sur l'infolettre pour être informées des premières sessions qui seront disponibles à l'automne. Un
D'accord.
autre livre, oui, dans ma tête, j'ai déjà ça prévu. Maintenant, je pense dans son temps.
D'accord. Cette année, l'année prochaine?
Ouh, ça c'est une bonne question. On va déjà
Oui.
essayer de faire en sorte de sortir du
C'est
confinement
vrai, c'est
pour pouvoir
vrai.
commencer à en parler,
Exactement.
peut-être sûrement plus l'année prochaine.
D'accord. Mais en tout cas, c'est une bonne idée de permettre aussi aux gens de se dire que c'est une période peut-être de confinement, mais c'est un moyen aussi de pouvoir sortir tous les projets que l'on a en soi, du coup.
C'est un moment enfin moi je trouve que c'est un moment très enrichissant pour créer.
Tout à fait.
C'est-à-dire qu'on a le temps de le faire. Et puis comme je le dis, sur les réseaux sociaux, c'est de regarder le côté positif.
Tout
Combien de
à fait.
fois est-ce qu'on nous dit restez chez nous et
Ouais.
profitez? Combien de fois est-ce qu'on nous dit bah, vous avez le temps de faire les choses? Est-ce qu'on n'aurait pas tous un petit peu, avec notre mode de vie très. C'est ça, à courir, à ne
Rythmé.
pas faire. Voilà, rythmé, à ne pas nécessairement mettre l'accent sur ce qui est essentiel à
Tout
nos
à
vies.
fait.
Est-ce qu'on n'aurait pas créé un petit peu cette situation d'être obligé de
Ouais.
rester chez soi et
Ouais.
de prendre le temps? Pour une
Ouais.
fois. Donc prenons le temps.
Exactement. Merci beaucoup Loïc. Votre ouvrage Naturopathie, j'ai du mal avec ce mot à chaque fois. Le guide saison par saison au nombre de 240 pages est donc disponible dans toutes les librairies au prix de 14,90 €. Et nos auditeurs peuvent également retrouver tous vos conseils sur votre chaîne YouTube Loïc Ternicien Naturopathe ainsi que votre site internet loïcternicien.com. Merci
Oui, il y a juste à
beaucoup.
chercher mon nom et vous allez tout trouver, le site,
Exactement.
Instagram,
Tout
notre
à
Facebook,
fait. C'est
tout
très
ça.
simple en plus, je trouve. Merci beaucoup, Loïc.
Merci beaucoup à vous pour cet échange.
Et prenez bien soin de vous. À très
Vous
bientôt.
aussi, au revoir.
Voilà pour l'interview de Loïc Ternicien. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la naturopathie? T'as déjà dû faire appel à un naturopathe?
Écoute, pour le moment, non. Mais ça fait partie de toutes ces. De toutes les expériences de vie
Ouais.
auxquelles il faut pouvoir toucher du doigt à un moment ou à un autre.
Ouais.
C'est un peu comme le fait d'aller voir un ostéopathe alors qu'on est toujours allé voir un kiné. Non, mais ça peut paraître bizarre, mais je trouve que c'est intéressant de pouvoir justement aborder les choses de façon différente. Tu sais, on est souvent trop sûr de notre culture et donc de notre savoir. Je pense que c'est
Ouais.
pas sûr, mais on est trop souvent sûr de ça. Et
Ouais.
je trouve que c'est intéressant et important qu'on puisse justement aller aussi vers d'autres approches
Ouais.
parce que tout n'est pas cantonné. Enfin, si les hôpitaux, aujourd'hui, tous les grands hôpitaux français ont des départements, par exemple, médecine tropicale,
mais oui.
Il y a aussi des savoirs dont il est nécessaire d'aborder. Donc au contraire, m'intéresse.
Et puis on parle quand même de naturopathie, on rappelle quand même c'est du rééquilibrage alimentaire, c'est de parler de comment réintégrer de la nourriture qui vient de la terre, des fruits, des légumes, de manger sainement, donc il n'y a rien d'extraordinaire dans tout ça. Et puis on ose bien prendre des médicaments chimiques, alors pourquoi pas des aliments naturels qui vont nous faire du bien à notre santé, des choses qui existent sur la terre qui sont gratuites, qui sont faites pour nous et qui peuvent nous faire du bien.
C'est vrai, complètement. Après, tu sais, je crois que c'est quelque chose. Enfin, moi, j'ai essayé de faire attention à ma nutrition pendant un temps.
Oui.
J'essaie de rester dans. Ça demande du temps, mm-hmm. parce que aller chercher les bons produits,
oui.
On ne trouve pas dans la petite supérette juste à côté de chez soi. Donc, ça demande un peu de temps pour pouvoir y aller.
Oui.
Ça demande quand même de l'argent, parce mm-hmm. que globalement, c'est quand même plus cher.
Oui.
En tout cas, pour ce que j'en connais, hein,
oui.
c'est quand même plus cher que ce qui se fait habituellement.
C'est vrai que c'est un petit peu plus cher, mais après, je pense qu'il suffit. Moi, pour ma part, par exemple, j'ai pris cette habitude de bien manger, de rééquilibrage depuis de nombreuses années, sportive, etc. Et même aussi de faire attention aux aliments que j'associe aussi pour garder mon énergie durant la journée, quand tu es professionnelle, etc. Et puis souvent, quand tu es beaucoup assise, etc. C'est une habitude, en fait, toute nouvelle habitude demande des changements un peu brusques ou des nouveaux repères à trouver. Mais après qu'on les a pris, franchement, ça ne prend pas plus de temps. Hein. D'aller au rayon. Puis maintenant, aujourd'hui, on a des rayons bio qui sont moins chers, de manger un peu moins de viande, de poisson, des œufs.
Tu conviendras que les rayons bio laissent quand même à désirer la plupart du temps.
C'est vrai, mais je trouve que certains supermarchés, dont je me permets de citer le nom, on a par exemple Auchan, on a par exemple Carrefour, qui font vraiment des efforts au niveau du prix. Après, s'il y a des magasins spécialisés, en effet, là, on voit peu de personnes dans les rayons parce que c'est vraiment un peu excessif, quoi.
Ah, moi, j'ai fait le test. J'ai testé Bio, c'est bon.
Oui, voilà, c'est ça.
Bon, on aura cité trois marques. J'ai fait le test Bio, c'est bon.
Ouais.
Comment te dire
ça. Ça coûte cher au portefeuille. C'est ce que je dis des magasins spécialisés. vu que nous sommes en confinement, JP, on va conseiller un peu plus de lecture dans notre segment Goût de lecture. Hein. Je sais que tu as des livres à proposer, je vais commencer par les miens. Il y en a 6 à proposer qui sont un peu divers et pour tout type, pour ceux qui veulent découvrir des lectures et pour ceux qui veulent approfondir des domaines. On va commencer par un livre qui s'appelle « La vie sans sucre, c'est facile » de Sarah Wilson. C'est un livre qui est sorti aux États-Unis depuis très très longtemps, c'est un best-seller dans différents pays. Édité en France par Larousse Cuisine, un livre costaud de 373 pages avec 303 recettes développées par cette femme qui, après quelques problèmes de santé, a voulu couper le sucre de son alimentation et du coup s'en est sentie bien. Le livre est vraiment complet, il y a des recettes, les photos sont magnifiques, elle nous fait rentrer dans son univers. Il y a des recettes sucrées, ne vous inquiétez pas, c'est juste des alternatives. Bien sûr, après, c'est une question, comme on a dit, hein, d'habitude. On trouve des moyens pour insérer du sucre avec des aliments naturels. Elle nous fait aussi rentrer dans les coulisses, elle nous donne aussi des conseils comment mettre des choses au congélateur quand on achète des choses de saison. Le livre est vraiment très très beau. Elle nous explique un petit peu comment elle travaille, comment elle mange, et puis son équipe aussi donne des conseils aussi sur la manière dont elle vit son quotidien sans sucre. Un livre inspirant pour expérimenter durant cette période des recettes. Et puis, il y a un autre livre aussi qu'elle a sorti, qui est édité aussi par Larousse Cuisine. C'est pour ceux qui ont vraiment du mal, parce que tu sais que le sucre, c'est vraiment comme de la drogue, c'est comme le sel aussi, et certains ont vraiment du mal à s'en passer, alors que
Moi, si tu as une bouche sucrée, je confirme.
Voilà, et puis alors que les gens ne savent pas que, par exemple, un excès de sucre, un excès de sel, un excès de viande, ça se voit sur la peau comme un excès d'alcool. Et donc, pour ça, pour ces personnes qui sont un peu droguées au sucre, elle a sorti un livre qui s'appelle « C'est décidé, J'arrête le sucre, un programme détox et minceur en 8 semaines que vous pouvez acheter aussi, ça c'est pour ceux qui veulent y aller au costaud. Mais sinon, au quotidien, vous avez ce livre, La vie sans sucre, c'est facile. Donc voilà, pour quelqu'un comme toi, ça peut être sympa, 24,95 € à découvrir et il est vraiment très 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 beau. Ensuite, je conseille livre animé entre papier et écran, histoire, technique, création, perspective par Gaëlle Pelachaud, sorti aux éditions Pyramide, qui sort toujours de très très intéressants et livres créatifs. C'est un livre illustré avec beaucoup de démos, beaucoup de livres qui ont été faits et puis des moyens de le faire, des guides pratiques qui nous montrent comment le livre illustré s'est présenté selon différents univers, le cinéma, le numérique, l'animation. Également pour ceux qui ont des projets, moi je m'en inspire pour un projet notamment, mais je pense que ça peut intéresser différents créatifs selon leurs projets. Pour créer avec ses mains aussi, on oublie trop souvent de créer avec ses mains, de couper du papier, de faire du coloriage, ce genre de choses. C'est un bon moyen aussi en ces temps confinés de pouvoir s'aventurer sur ce domaine. Et voilà, un livre très très très, très intéressant qui retourne dans l'histoire du livre animé et jusqu'à aujourd'hui. Voilà, 29,50 €. C'est le type de livre qui pourrait t'intéresser?
Oui, complètement. Complètement. J'ai noté. C'est vraiment, enfin, de toute façon, il n'y a pas de lecture inutile.
Tout à fait.
J'aime bien devoir faire face à l'expérience des autres, donc c'est cool.
Parfait. C'est clair, en plus, c'est le moment. Ensuite, je conseille un livre qui s'appelle Créer, c'est exister de Valérie Belmokhtar, également édition Pyramide. Un livre excellent pour les créatifs, parce qu'on est tous créatifs au fin fond de notre âme, hein, bien entendu, mais on ne veut pas l'admettre, ou on se dit que créatif c'est pour ceux qui dessinent, qui peignent, ce genre de choses, etc., qui font de l'art, qui ont des ateliers, alors que pas du tout. Cette femme raconte donc son expérience entre pratique et guide. Il va vous aider à réveiller non seulement votre créativité, mais vous donner envie de sortir tous les projets que vous avez au fond de vous, en tout simplement commençant, en se disant que voilà, nous sommes nés pour créer. D'ailleurs, j'avais vu un documentaire sur Netflix qui s'appelait The Creative Brain, qui parlait que justement, les personnes qui sont souvent en dépression, ce sont des personnes qui ne créent pas, alors que nous sommes nés pour créer. Et elle nous donne ses moyens de créer. On a des chapitres comme arrêter de se comparer aux autres, transformer une pièce de son travail, de son appartement en atelier, tu vois. Aussi, elle donne des conseils pour le processus créatif, organiser son travail au quotidien selon des périodes créatives, parce qu'on a tous nos périodes créatives. Certains c'est la nuit, certains c'est très tôt le matin. C'est vraiment un livre très inspirant, réjouissant et, comme elle l'a dit, un programme libérateur. Donc voilà pour ce livre, Créer. Créer, c'est exister. Tu serais intéressé par celui-là aussi ?
Oui, parce que enfin, je pense que ça peut, même si j'ai pas l'impression d'être un créateur, en tout cas ça peut débloquer parfois certaines choses.
Tout à fait.
Toujours pareil, en fait, le fait de lire l'expérience des autres, de la vivre à travers eux et de voir leur approche. Il y a tellement de phrases dans un livre qui peuvent
déclencher, c'est vrai.
Que du coup, je pense qu'il faut il faut lire ça.
C'est clair. Dis-moi, tu es quand même DJ. Tu n'es pas créatif, tu trouves?
Non, j'ai pas l'impression. Enfin, moi, tu sais, j'ai toujours pensé que passant la musique des autres, j'étais pas. Je mets la musique des autres, moi.
Donc, mais tu es un chef d'orchestre plutôt dans ce cas.
Oui, mais je n'ai pas la sensation que c'est un savoir-faire, mais je n'ai pas l'impression que ce soit un art.
Ben, c'est un art, je te le confirme. Ensuite, un roman, le tome 5 des Chroniques de Saint-Marie, on en a parlé à chaque fois. On aime beaucoup cette série de livres. Et là, le tome 5 s'intitule « Hier ou jamais », écrit par Jody Taylor. Alors, je rappelle, les Chroniques de Saint-Marie, c'est l'histoire de scientifiques qui racontent leurs aventures à travers un personnage, une femme, qui est donc un institut et qui sont à la recherche, qui font des études en traversant le temps, en voyageant dans le temps. Donc là, avec ce tome 5, ce sont de nouveaux challenges que vivent ces personnages. Si vous vous rappelez le tome 4, on n'a pas osé vous raconter quand même, hein, pas de spoil quand même. Mais avec ce tome 5, c'est un reboot des aventures de ces personnages-là qui ont vécu beaucoup de challenges dans le dernier ouvrage. Et là, de nouveaux voyages à travers le temps, à travers ce personnage Madeleine Maxwell, qui s'en va donc à Florence, qui s'en va rencontrer des anciens personnages qu'on peut lire dans les livres et qui se permettent de ramener des choses qui ont été perdues pour étudier un peu plus l'histoire et revivre aussi des moments historiques. Voilà, ce livre est toujours aussi excitant pour ce tome 5 qui s'appelle « Hier ou jamais ». Toujours intriguant pour tous ceux qui sont attirés par la science-fiction comme moi et pour ceux qui souhaitent aussi s'évader. Voilà, 14,50€, Hier ou jamais, les chroniques de Saint-Marie. Tu lis des romans, toi ?
Oui, ça m'arrive.
Ouais.
Ça m'arrive. Je ne suis pas, le... C'est pas ce que je dis le plus facilement.
Bien sûr.
Parce que j'aime beaucoup l'idée qu'une lecture se doit d'être utile pour moi, en fait.
Oui, oui, oui.
Et donc, j'essaye d'apprendre quelque chose et... Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi.
Ouais.
Je vais plutôt spontanément aller vers des études sociétales,
ouais,
ou des,
des livres d'histoire,
des histoires. Mm. Mais bon, c'est
de temps en temps.
De temps en temps, ça fait du bien.
Ouais, c'est clair. Et puis après, ça dépend des domaines, parce que je trouve intéressant, par exemple, si un domaine t'intéresse particulièrement comme la science-fiction, dans lire, parce qu'il y a quand même des choses très véritables dans ce livre, même si ça parle de voyage dans le temps. Moi, je sais que, pardon, ça m'a créé, ça m'a débloqué des idées, des choses nouvelles, donc je trouve ça intéressant. Ensuite, avant-dernier livre, le livre qu'il vous faut pour réussir sur YouTube. Tu crées sur YouTube, tu poses des vidéos sur YouTube, toi ?
Écoute, j'ai beaucoup de problèmes avec les posts sur différents sites. Tu sais, je faisais une émission sur Facebook qui est coupée systématiquement parce que je diffuse de la musique.
Ah oui, tout à fait.
Et donc du coup,
ça t'a calmé.
Ouais, ça m'a un peu calmé, voire même dégoûté parce que j'aimerais bien pouvoir créer, mais voilà,
diffuser, non, ouais.
Pas,
ouais. Ouais, alors là c'est un nouveau livre, c'est une série de livres, hein, guide au format très carré, très de poche aussi. On avait présenté l'année dernière dans le Lunch Show un livre qui s'appelait « Le livre qu'il vous faut pour réussir sur Instagram ». Cette fois c'est YouTube, hein, avec la participation de 45 YouTubeurs qui vont vous guider à travers leur profil et leur domaine, apprendre de leurs conseils pour ensuite vous distinguer selon votre sujet. Après il y a de tout, hein. C'est selon votre pratique, votre créativité, si vous ne craignez pas de vous mettre en avant et donc à un moment donné de vendre votre image à votre péril. Il y en a qui le font très très bien, mais voilà, c'est pour ceux qui ont du mal avec YouTube à attirer des spectateurs, hein, et aussi à mettre en avant de façon technique des choses pour attirer le nombre de spectateurs. Mais il faut admettre aussi que l'algorithme a sa part sur les réseaux sociaux, et donc là ça devient encore un plus difficile. Mais plus vous vendez de vous-même, moins vous craignez de vendre votre vie, d'ouvrir votre vie, plus vous attirez de monde. Je trouvais ça étrange. Après, ce guide est très pratique pour prendre ce qui est bon à prendre et jeter le reste. Voilà, le livre qu'il vous faut pour réussir sur YouTube, 14,90€ également, des éditions Pyramide. Ça t'intéresse pour te relancer,
oui,
sur YouTube ?
Non, mais malgré tout, comment, moi en tant que, vu mon métier, j'ai aussi un besoin impératif de savoir et comprendre comment je peux... développer,
ouais, c'est vrai, hein,
de mon activité.
Oui, donc, oui, oui. De voir les formats actuels, tout ce qui se fait de nouveau pour, ouais, ne pas, ouais, perdre la page, tu vois. Non, c'est vrai. Dernier ouvrage, Marketing et Management, 16e édition, un best-seller, la Bible du marketing, mis à jour selon l'actualité du marché, les nouvelles entreprises, les innovations industrielles, les méthodes mises en place, ainsi que nos styles de vie, parce que ça joue aussi sur le marché. Un livre costaud, un livre très très costaud de 750 pages. C'est pas un livre à lire du début jusqu'à la fin, hein. C'est un livre plutôt à piocher selon vos besoins. C'est comme les avocats quand ils ont besoin d'avoir, de trouver des lois ou de s'inspirer de cas. Eh bien là, c'est le cas. C'est un livre écrit en collaboration avec différents auteurs, Philippe Kotler, Kevin Keller, Delphine Manceau, Aurélie Emonet, des maîtres de conférences, des professeurs de marketing, etc., des conférenciers. Et vous aurez tout, le format est différent, vous avez des cas d'études pour faire sa communication de façon marketing pour toucher un public, pour faire des études de marché, pour aller sur le marketing digital, pour pratiquer selon des personnes qui ont osé des méthodes, l'analytique, de la prise des décisions. C'est vraiment un livre que j'ai tout le temps à côté de mon bureau et que je pioche pour différents de mes clients ou pour des choses que l'on met en place. Et puis, les chapitres sont très précis, il y a des codes couleurs. Vraiment, c'est un livre que je conseille à tout le monde et qui est mis à jour de façon assez régulière. C'est des éditions Pearson qui sortent beaucoup de livres très intéressants en marketing. 54 € et à garder toujours à côté de son bureau. Qu'est-ce que tu en penses?
Bah écoute, j'espère que c'est un investissement.
Oui. Je te confirme, c'est un très bon investissement parce que même si ils vont sûrement faire une 17e édition, parce que pourquoi pas dans 10 ans, il y aura d'autres nouveautés, bien entendu, mais il y a quand même des références, il y a des choses qui ne changent pas, même si les formes changent, le fond reste identique. Voilà pour ma sélection. À toi pour ta sélection de 3 livres, JP.
Eh bien, écoute, alors moi, je vais commencer par un livre, qui s'appelle White, de Bret Easton Ellis.
D'accord.
C'est un super bouquin.
Ouais.
Plutôt bien écrit. C'est lui qui avait écrit, par exemple, Luna Park ou American Psycho.
D'accord.
Donc, c'est un super bouquin qui semble un peu déconnecté quand même de la vie sociale des gens, du peuple, entre guillemets.
Uh-huh.
Parce que il raconte sa vie et sa vie de jeune homme plutôt friqué, plutôt un peu anard. Et donc il parle de la façon dont il a été confronté au cinéma, notamment au film d'horreur.
D'accord.
Et c'est assez intéressant parce que ça décrit assez bien comment pense et comment se positionne une partie de la société américaine, notamment vis-à-vis de l'arrivée de Trump. C'est assez intéressant.
C'est un livre historique et en même temps biographique.
Voilà, complètement. Et donc ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa, plutôt bien.
Oui.
Ensuite, c'est la grande Toni Morrison, avec ce livre Home que je redécouvre.
D'accord.
Je l'ai pas fini, donc je vais pas m'auto-spoiler.
Ouais.
Mais voilà, je suis très frappé par la simplicité de son écriture, mais en même temps la profondeur de ce qu'elle l'oblige en réflexion, en fait. C'est vraiment sublime.
Qu'est-ce que c'est une biographie? Qu'est-ce que c'est un état des lieux?
C'est l'histoire de l'Amérique noire des années 50.
D'accord.
Vraiment c'est chouette, quoi. Vraiment c'est chouette.
Et ce titre, le livre s'appelle
Home, H-O-M-E.
Super.
Ensuite, c'est un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Ta-Nehisi Coates. Et ce livre s'appelle Le procès de l'Amérique.
D'accord.
Qui, lui, est un jeune écrivain, enfin relativement jeune écrivain, qui vraiment étudie de façon, j'ai envie de dire, pas impartiale, mais en tout cas objective,
ouais.
euh, des effets de 250 ans d'esclavage, plus de la population sur la communauté afro-américaine.
D'accord.
Et donc, il a un autre bouquin aussi qui s'appelle Une colère noire, qui va aussi dans le même sens.
Oui. Et
je pense qu'il fait partie de ces relativement jeunes auteurs, il doit avoir une 40 ou entre 40 et 50 ans, qui apporte une vraie hauteur de vue, une vraie volonté d'aller chercher, d'aller comprendre le rôle de la paternité, par exemple.
D'accord.
C'est que tu as la chance d'avoir eu un père présent, omniprésent, qui fait qu'il n'a jamais pu. Il n'a jamais eu envie, ne serait-ce qu'envie, de tourner kazakh et de mal tourner, tout simplement. Et donc ça, il en parle avec beaucoup de force. Et en plus, il a fait l'effort d'aller chercher, mais sans misérabilisme, d'aller chercher les causes, en fait, les causes de certains comportements.
C'est quelque chose de
très intéressant.
Génial, merci pour ta sélection. C'est la fin ?
J'en ai un petit dernier.
D'accord.
Un petit dernier.
Oui.
C'est un bouquin de Rachida Menzou.
D'accord.
Qui s'appelle Zoom. Mm-hmm. C'est un bouquin sur l'univers de la danse hip-hop.
Oh.
Tu sais que je suis prof.
Tout à fait. Quoi ? À la Juste de Blue School.
Qui est de la danse à la Juste de Blue School. Mm-hmm. Et donc là, ce qui est chouette, c'est que il a fait un bouquin explicatif, très très didactique, mais explicatif. Et en fait, chaque pas est filmé.
D'accord.
Et on peut le retrouver à travers un QR code.
D'accord.
Du coup, il donne chaque pas avec l'histoire de chaque pas et on va le trouver avec. Il donne un QR code, on prend le QR code et on regarde. Mmh. Et donc voilà, je trouvais que c'est plutôt sympa et c'est intéressant. Et donc voilà, je voulais clore mes propositions sur ça.
Ce livre s'appelle
Zoom.
Zoom de
Rachid, R-A-S-H-E-A-D. Amenzou, A-M-E-N-Z-O-U.
Très bien, de toute façon, on mettra tous les livres dont on a sélectionné pour les bouts de lecture en cette période spécifique à travers l'éditorial de l'émission. Donc vous aurez tout ce qu'il faut, ainsi que les liens pour y avoir accès, pour les commander, etc. etc. Merci pour ta sélection. On va passer encore un peu de temps avec toi, JP, avec ton segment l'industrie musicale face au Covid-19, parce qu'on est dans une réalité. On parle beaucoup de sanitaire, de précautions sanitaires, de prendre soin de soi, de confinement, de comment bien le vivre, etc. Mais on ne parle pas de la réalité qui va nous confronter à la sortie de cet événement, c'est l'économie. Alors, tu es chroniqueur musique, hein, notamment dans le Lunch Show pendant plusieurs mois avec nous auparavant, JP. Comme tu disais, tu es également professeur d'histoire de musique afro-américaine à la Juste de Blue School. Et donc, tu vas nous parler de ce sujet. On parle beaucoup de Covid-19 en boucle sur les chaînes, au point d'apporter une sorte de culture de la peur dans le cœur des Français. On le voit dans la rue, bien plus que de l'information, je trouve. On parle aussi beaucoup plus des effets, des ravages du virus dans le monde. Mais on ne parle pas assez de ce qu'il fait au niveau de l'économie à grand feu suite au confinement mis en place par nos États. Et puis, on ne parle pas assez des personnes qui guérissent de ce virus. Alors, on va parler spécifiquement de l'économie du divertissement. Nous allons parler de l'économie de l'industrie musicale avec toi. De quelle manière ce confinement et donc cette pause de l'économie musicale atteint l'industrie, le business de la musique ?
Alors, en préambule à tout ça, je veux quand même dire que le plus important est que tous les acteurs de cette économie sortent de cette mauvaise passe en bonne santé,
qu'on
reprendre tous le boulot et qu'on puisse tous reprendre le cours de nos existences professionnelles artistiques avec le maximum d'envie et de pêche et ensuite je veux aussi parce que j'ai quand même quelques amis qui travaillent dans le domaine médical et de leur faire part de tout mon soutien parce que
c'est vrai.
Je sais qui traverse une période qui est absolument pas facile.
Oui.
Sans faire de catastrophisme, qui semble bien plus compliqué que ce qu'on veut bien nous en dire
oui, c'est clair.
Dans les médias, histoire de pas alerter les gens, mais
oui.
Je pense que c'est une catastrophe. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une catastrophe. On est coupé de toutes nos activités, en fait.
Oui, parce que moi, c'était très extérieur quand même.
Moi, par exemple, dans l'école, je peux pas enseigner.
Ouais.
Je peux pas enseigner à l'école, je ne peux pas officier en soirée, donc
ouais.
Du coup, je suis vraiment pieds et poings liés à ce Covid-19 et à la durée du confinement.
Ouais.
Et la durée du confinement, et je pense que ça va avoir, peut-être pas dans un premier temps, parce que je pense que si on en sort en mai-juin, je pense que les gens vont avoir envie de souffler, sortir,
s'amuser,
et je pense que ça devrait permettre à certains établissements de repartir
plus
solides. Mais d'un point de vue économique, c'est une catastrophe.
C'est une
catastrophe, il n'y a pas d'autre mot.
Oui, bien sûr. Après, il y a beaucoup de domaines, d'activités qui ont des alternatives. Par exemple, on a le télétravail, on a, comme nous aussi, la production et beaucoup d'autres chaînes de télé, de radio qui ont trouvé des alternatives technologiques. Est-ce que, par exemple, pour la Just Debout School et plein d'autres domaines de clubs, etc., est-ce que l'alternative du digital n'était pas une possibilité à prévoir en amont ?
Non, c'est pas à prévoir en amont. D'abord parce que ce qui fait vivre un club, c'est effectivement le DJ qui va officier, ça c'est sûr, mais d'un autre côté aussi, ce qui va permettre à ce club d'exister, c'est les consommations, le restaurant, le bar, le vestiaire. Donc ça c'est une part de son activité dont il est coupé. Les gens ont plus facilement. Enfin, j'imagine pas une boîte géante virtuelle.
Moi, je te dis, c'est possible. Tout est possible. Il suffit d'un peu de créativité. Parce qu'on a entendu justement dernièrement, juste après le confinement, annoncé en début de semaine, on avait par exemple des associations entre, par exemple, John Legend et le chanteur de Coldplay qui ont fait un concert en live sur Internet. Bon, après, la problématique aussi de la surconsommation d'Internet intervient également. Mais on a, par exemple, je sais pas, on a des personnes comme l'INA, des organismes qui ouvrent à des cours sur Internet, des programmes, pourquoi pas des cours de l'histoire de la musique américaine en vidéo sur Internet.
Alors ça c'est sûr que c'est possible. C'est pas des choses dont on ne pourrait pas. C'est complètement envisageable. Enfin, je dois avouer que dans ce domaine-là, il y a effectivement une forme de. Enfin, ça fait partie de la réflexion.
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'on peut continuer à garantir, nous, vis-à-vis par rapport à l'école, qu'est-ce qu'on peut continuer à garantir pour que les élèves puissent continuer à rester un petit peu sous tension et continuer à travailler et ne perdent pas leur année, quoi.
Tout à fait, exactement. Et on n'a pas parlé aussi des personnes qui ont des concerts annulés, les tournées. On sait que dans l'industrie de la musique, tout ce qui est album, sortie, ce n'est pas le cœur de l'économie pour un artiste, de ce qui fait sa rentabilité. C'est vraiment tout ce qui est tournée, tout ce qui est produits dérivés, etc.
Tournée, concert, c'est...
Exactement.
C'est une hécatombe, c'est une catastrophe. Les tourneurs, les régisseurs,
les festivals aussi.
Tous ces gens-là se retrouvent dans des conditions qui sont vraiment, 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 vraiment très difficiles. Vraiment, c'est vraiment très difficile. Les salles de concert demandent aux gens qui ont pris leur place de concert de ne pas demander à se les faire rembourser pour que les gens continuent de façon à ce qu'ils puissent reporter l'utilisation de leur place sur un autre concert.
Ouais.
Enfin, c'est vraiment très, 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 très compliqué.
Ouais, j'imagine. Et on a aussi quand même, comme on en a parlé depuis tout au long de cette émission, l'État, le gouvernement, notamment en France, qui s'investit pour soutenir l'économie, notamment les entrepreneurs, les artistes. On a notamment le cinéma que soutient beaucoup le gouvernement, les producteurs, pour faire par exemple des prêts à certaines auteurs sans réclamer beaucoup d'argent en retour. On a aussi par exemple pour les entrepreneurs, comme je l'ai dit, j'ai reçu un mail de ma banque qui m'a prévenu en me disant que voilà, si vous avez des prêts bancaires, heureusement je n'en fais pas, que tous les prélèvements seront stoppés, on a de la réinjection, on a tout ça que met en place le gouvernement. Est-ce que c'est des choses qu'on peut retrouver aussi pour l'industrie de la musique ?
Écoute, le fait est, c'est que pour l'industrie de la musique, la plupart, tu sais, il y a quand même une chose qui est très vraie, c'est qu'il y a très peu de gens qui sont engagés en fait avec des contrats.
D'accord.
Ils facturent.
D'accord.
Donc face à une facture,
ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je suis un petit peu court dans mon explication.
Mais évasif.
Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a on n'est pas DJ résident, par exemple.
Oui, je comprends.
On va travailler une fois à tel endroit, une fois à tel autre endroit, et donc on fait une facture pour ça.
Tout à fait.
Et donc, du coup, facturer ne veut pas dire qu'on a une rentrée d'argent régulière.
Tout à fait.
Régulière, tu vois, c'est officiel, mais pas régulier. Et donc, du coup, on n'a pas le moyen de faire une réclamation par rapport à une rentrée spécifique. Par exemple, à l'école, je suis salarié et là, c'est autre chose.
Tout à fait. Mais par exemple, si tu dis qu'on fait des factures pour les DJ sur deux choses ou autres, il y a quand même, on précise, hein, je sais que c'est pas énorme, mais c'est quand même intéressant de se dire que les charges sociales sont stoppées, les prélèvements des charges sociales sont stoppées.
Oui, ça c'est important.
Tout à fait. Donc, mais c'est vrai que comme ce sont des activités où on vit un petit peu au club du club au lieu de dire au jour le jour,
ouais.
C'est vrai que par exemple, on en parlait en privé auparavant, pour certains qui ont besoin de payer leur loyer, ce sont des situations compliquées que une personne, un propriétaire s'en fichera un peu.
Non, enfin là. Enfin, bon, après, les propriétaires peuvent s'en fichent un peu,
ouais.
mais là, malheureusement ou heureusement, ils ne pourront pas développer cette part-là de leur inhumanité, parce que malgré tout, il y a un cas de force majeure qui est valable pour l'ensemble du pays, et c'est quand même très compliqué. De dire aux gens vous payez quand même votre loyer, alors quand on sait qu'ils ne rentrent pas.
Oui, c'est clair. On précise aussi au niveau du côté social, même si ce n'est pas le sujet du jour, que par exemple, le gouvernement a aussi mis un stop à la trêve, enfin, a prolongé la trêve hivernale, ce genre de choses. Donc, je pense que beaucoup doivent quand même se renseigner. Il y a plein de choses qui sont mises en place et le gouvernement nous protège. Mais je pense que si. Est-ce que tu as des solutions à proposer pour... On a parlé tout à l'heure d'aller sur Internet, on a parlé du livre comment s'en sortir sur YouTube. On a même des églises qui organisent leur culte sur Internet. Donc, c'est des choses à inclure, non ?
Écoute, moi, je vois... par exemple, tu vois, j'ai essayé de faire des lives pour regarder du lien avec les gens qui me suivent sur Facebook, par exemple.
Oui.
C'est compliqué parce que... Facebook interrompt le son.
Ah oui.
Donc, enfin, là-dessus, par exemple,
c'est compliqué. Facebook
devrait pouvoir faire un effort parce
que
je pense que en faisant cet effort, il y a quand même plus de chances que les gens puissent
avoir de la liberté, on va dire.
Pour certains artistes, quoi. Enfin, c'est aussi le moment de pouvoir faire la promo de certains artistes, de permettre à ces artistes d'exister, alors que c'est pas les radios qui les passent, c'est les DJ. Donc ça, malheureusement, enfin, il y aura des comptes à régler.
Ouais, c'est compliqué du coup. Mais est-ce que sur les réseaux sociaux en dehors YouTube, est-ce que c'est possible? Je sais que par exemple Facebook et Instagram, plus Facebook quand même, parce que les deux sont liés, c'est la même entreprise, bloque aussi le son de certains audios, quoi.
Ouais, Facebook bloque le son de l'audio. J'ai essayé de faire un mix. J'ai reçu immédiatement un mail de Facebook me disant que donc bon, enfin je fais pas. J'ai besoin de mes pages justement pour continuer à communiquer. Et du coup, j'ai bien, je m'abstiens quoi.
Bien sûr. Mais en tout cas, au niveau des cours, ça, c'est possible, puisque même certaines écoles...
Pour les cours, ce sera possible. Ouais. C'est à l'étude, avec Bruce, qui est le patron du Juste Debout.
Tout à fait.
C'est quelque chose qui est à l'étude pour savoir exactement ce qu'on peut faire et comment le faire, justement.
Exactement. Et notamment comme des plateformes, parce qu'on parle de télétravail aussi pour certaines entreprises, donc de la visioconférence, ce genre de choses. Est-ce que ce sont des moyens, des alternatives à utiliser, par exemple, pour propager des lives audio, des choses comme ça, tu vois?
Alors peut-être que justement, il faut pouvoir envisager ça. Mm-hmm. Après, je, comme tu le sais, malheureusement, je suis trop dépendant de gens qui sont bien plus au fait que moi de l'utilisation d'Internet.
Bien sûr, oui. Hein. Mais justement, c'est une période, pour, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour développer ce manque dans certains domaines. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut trouver des solutions pour justement ne pas sortir de ce confinement, parce qu'on ne parle plus de 15 jours, on parle de 45 jours. Pour ne pas rester à ne rien faire chez soi et de se tirer les cheveux et puis de sortir de là un peu les poches vides. Est-ce que tu as d'autres solutions, par exemple, en dehors d'Internet à proposer ou du digital?
Ah bah, là, de toute façon, malheureusement, je n'ai absolument rien à monétiser.
Oui,
là, pour le coup, si la situation perdure, mm-hmm. il va effectivement bien falloir trouver quelque chose, mais dans le cas présent, c'est hyper compliqué, ce serait hyper malvenu de ma part comme de la part
d'autres, hein,
de dire bon, allez, voilà, je fais un live, mais payez quoi. Je pense que ça passerait mal.
Mais justement, comme on est dans une période, pour terminer sur ce segment, on est en période de solidarité, tout le monde propose des choses du gratuit. Est-ce que c'est le moyen justement de, entre guillemets, survivre en se disant c'est un moment, ça va durer quelques jours, 45 jours, un mois, deux mois, de se dire que pour le moment, je ne peux rien faire, je suis entre guillemets bloqué, mais je veux proposer du gratuit pour que ma créativité à moi continue et que les auditeurs puissent continuer à voir que j'existe et quand je sortirai de là, à proposer des choses un peu plus payantes, comme on dit.
Oui, ça de toute façon, oui, ça, il est sûr qu'on tente de subsister, de continuer d'exister autant qu'on peut.
Oui,
ça, c'est sûr. Mais par contre, et ça passe par effectivement une certaine forme d'inventivité et on en a besoin, c'est clair et précis. Mais c'est vrai que au sortir de ça, et ben on aura de toute façon on saura exactement comment on a pu impacter les gens qui ont pu nous suivre à ce moment-là.
Tout à fait.
Vrai que moi vraiment j'adorerais pouvoir donner à écouter des choses aux gens. Alors, je pense que je vais me tourner vers des sites un peu comme SoundCloud ou Mixcloud pour pouvoir y déposer des mix et les publier de façon à ce que les gens puissent les écouter.
Tout à fait.
Mais voilà, c'est à peu près tout ce que je vois parce que tout ce qui est visuel et qui passerait par Facebook et Instagram me semble.
Après, je peux te conseiller, moi, pour ces personnes qui sont dans la musique, par exemple, de faire des lives Instagram à IGTV, mais plutôt des lives Instagram, notamment en dehors de ce qui est droits musicaux, mais par exemple, sur tes cours, continuer à enseigner avec des versions plus courtes, ce genre de choses. On parle aujourd'hui d'alternatives. Même nous, aujourd'hui, avec MM Radio, on a toujours refusé de pouvoir faire des plateaux comme on fait aujourd'hui, c'est-à-dire en extérieur, avec pour avoir du son de qualité, c'est-à-dire pour pouvoir avoir du bon son, proposer des choses excellentes. Mais aujourd'hui, la situation fait que nous avons dû nous adapter. Mais je pense que sortir de ces sentiers battus, comme on parle depuis tout à l'heure, continuer peut-être pas la musique, mais des personnes comme toi qui sont professeurs, proposer des vidéos en live sur Instagram, continuer à enseigner, continuer à faire fructifier ce talent que l'on a, que tu as, pour que les gens puissent en profiter et nous aussi continuer à créer, parce que c'est notre but de notre vie, c'est de créer.
Ça tombe pas dans l'oreille. Hein.
Ah, ça c'est certain.
Et c'est très 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 intéressant parce que en fait, bon, moi, je réagis un petit peu comme quelqu'un de mon temps et pas du temps présent. Enfin, même si j'essaye de communiquer à travers tout ce qui se fait sur les réseaux Insta, Facebook, de façon prioritaire. Mm-hmm. Mais c'est vrai que on ne pense pas toujours à se réinventer.
Oui.
Et donc là, je pense que c'est effectivement une bonne solution.
Tout
une
à fait. Et à utiliser tous les moyens que l'on a à disposition, vraiment, quitte à se faire aider également. On va terminer donc cette émission avec quelques actus et même radio. Ne manquez pas notre toute nouvelle émission lecture avec Jacques Maillard, auteur de Sagesse en entreprise, qui, par ses expériences, nous pousse à vivre et chercher plus que les objectifs dans notre environnement de travail. Et puis, retour de l'émission Œuvre de foi avec une nouvelle saison intitulée Les réalités spirituelles de la vie chrétienne. Une première émission intitulée Booster son être, ça tombe bien, c'est le moment de l'écouter avec le couple pastoral gentil et grâce ma foi de l'église ACER qui vous pousse à ouvrir les yeux sur les aléas de votre existence. Enfin, retour également de notre programme de mentoring Masterminds où tous nos derniers invités de MM Radio répondent à la même question: qu'est-ce qui peut vous empêcher d'atteindre le succès? En attendant la fin de ce confinement, on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup JP pour tous tes conseils et ta participation. Merci beaucoup à Loïc Ternicien pour ses conseils et son guide naturopathique, le guide saison par saison. Merci à vous, chers auditeurs, d'être compréhensifs malgré ce moment avec ce son un peu moins excellent que d'habitude, mais de nous soutenir et de continuer à nous écouter. Nos émissions sont continuellement disponibles à écouter sur MM Radio, sur toutes les plateformes Acast, TuneIn, Stitcher et Apple Podcast. Nous vous disons à très bientôt sur MM Radio et dans le lunch.
Au revoir.
MM Radio.